7h18, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, un tiers des Québécois qui ne peuvent financièrement subvenir à leurs besoins.
Oui, c'est un sondage BDO qui frappe l'imaginaire ce matin. Évidemment, faut se parler entre tes deux yeux, là. BDO, c'est une firme comptable, mais c'est aussi une firme de syndic. Donc, comprenons que le sondage est une espèce de publicité implicite. Mais quand même, les résultats sont intéressants. On nous dit, dans le fond, on a un problème de santé financière publique majeur. T'sais, à cause du crédit, à cause que la gestion financière n'est pas valorisée, parce que sur Instagram, tu vas pas mettre ton budget, tu vas mettre ton bateau, tes vacances ou ton condo. T'sais. Mais les statistiques sont intéressantes. Donc, le taux directeur a augmenté, le coût de la dette augmente pour les gens, et on se rend compte qu'au Québec, si tu exclus l'hypothèque, les gens ont en moyenne 20 134 de dette. Tu sais, 20 134 de dette, ça a l'air d'un petit chiffre comme ça, mais une fois que tu as pensé qu'il faut de l'impôt avant ça, tu sais, c'est quand même énormément d'argent.
Ça veut dire quoi? C'est carte de crédit?
Carte de crédit, marge de crédit, le bateau... une collection prêts, de cartes d'hockey achetées à crédit, une marge de crédit. Il y a 31% des Québécois qui manquent d'argent pour payer leurs dépenses courantes. Ça veut dire payer la facture de téléphone, payer le linge, payer la nourriture. Puis, évidemment, c'est un sondage. Donc, il y a des gens qui sont honnêtes, puis il y a des gens qui sont défensifs, puis il y en a qui sont offensifs. Là. Mais un quart dit qu'ils sont accaparés par les dettes, qu'ils sont stoïques devant les dettes, que les dettes les rendent incapables de fonctionner comme il faut ou de faire face à ces dettes-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même les adultes qui commencent à dire « mais les dettes sont tellement élevées qu'on comprend nos enfants de rester tanguis ». Donc, dans le sondage, il y a des données qui démontrent que les enfants, ils ont comme, si on veut, un peu de compassion de leurs parents quand ils ont 18 ans et plus de rester à la maison parce que la vie coûte cher, tu sais. Et on démontre aussi qu'autant les femmes que les milléniaux sont désavantagés financièrement, c'est-à-dire que au niveau du sondage, on démontre que ce sont les plus touchés, les deux groupes les plus touchés par l'endettement. Évidemment, la capacité à s'endetter aide tout ça. Là. Tu sais, il y a plus de depuis que l'argent papier est disparu, c'est extrêmement difficile, si on tient pas des comptes rigoureux comme un comptable, d'avoir une espèce de vision de ses finances très très précis quotidiennement ou même hebdomadairement. Et ça, c'est difficile parce que le crédit, on en donne partout. Tu veux un crayon, je te donne une carte de crédit. Tu veux une serviette, je te donne une carte de crédit. Achète pas ça comptant, c'est 0%. Donc, toute la société est faite pour que tu deviennes un objet de paiement mensuel.
Mais en plus, quand arrive un imprévu, ouais, que ce soit t'sais, des travaux d'urgence que tu dois faire, des appareils électroménagers que tu dois changer, ce que en regardant l'étude, là, l'enquête, tu t'aperçois que les gens là, sont comme « wow, pris à la gorge ».
Oui, puis tu sais, quand t'as un immeuble, mettons un immeuble des années 50, 60, j'ai parlé avec une dame récemment sur la rue, tu sais, ces allèges de fenêtres. Tu sais, ça a de l'air niaiseux, des allèges de fenêtres. Mais quand tu fais venir un maçon chez vous, faut que tu renouvelles ton prêt hypothécaire. T'sais. Il arrive chez vous, puis c'est une coupe de sang en partant, juste te dire bonjour. Donc, c'est extrêmement difficile faire face à une maison, par exemple. Et le sondage le démontre bien. Il y a un gros pourcentage des gens sondés qui disent « je suis pas frette » ou « je suis pas préparé à faire face à la gestion d'une maison ou à la gestion des finances d'une maison.
On va parler d'un investisseur qui s'appelle Bill Ackman et qui aurait, semble-t-il, mis 900 millions de dollars américains dans Starbucks.
Oui, Starbucks avec son fonds, évidemment, Pershing oui. Square, pas juste lui personnellement.
Mais lui, c'est un gars assez controversé.
Oui, tu te souviens-tu de Valéant?
Oui,
lui,
oui,
là,
oui.
Il s'était attaché au titre de Valéant. Il l'avait défendu, puis il avait dit « Hey, moi, je vais être là jusqu'à la fin ». Mais il était là jusqu'à la fin, il a perdu 4 milliards. Donc, c'est ce qu'on appelle un investisseur activiste. T'sais, c'est un investisseur qui rentre une compagnie, qui exige des changements, qui demande des améliorations et qui demande des profits. Et c'est tellement influençant que tu vois, il investit dans une compagnie, puis le titre a monté de 2%. Donc, ça te démontre comment... ce genre d'investisseur-là influence la bourse. Et il dit, lui, c'est pas compliqué. Regardez Starbucks, la Chine. La Chine, ça représente le facteur de croissance de Starbucks. On va convaincre les Chinois de troquer le thé pour le café. Donc, lui, il dit, ça pourrait tripler à ce niveau-là. Et Starbucks, pas, ça paraît pas, mais commence à avoir de la misère. Là, je te parle de la misère des riches, c'est-à-dire avoir des résultats moins favorables. Pourquoi? Il y a les cafés troisième vague, tu sais. Les gens ont découvert Starbucks en se disant « Ah, voici du café haut de gamme ». Mais c'est un peu comme quand tu as commencé à manger chez les sushi shops. Tu penses que c'est des sushis, puis ça en est. Mais à un moment donné, tu découvres les commerçants de coin de rue, puis les raffinements, puis tu commences à comprendre qu'il y a, il y a plus de valeur peut-être ailleurs, puis de concurrence, et tu délaisses tes premiers amours. C'est un peu ça chez Starbucks. Ils ont de la misère à vendre en après-midi. La compagnie dit, le monde vient pas en après-midi. Ben non, on travaille. Et puis là, on a fermé, on va fermer 150 magasins opérés par Starbucks. Parce que Starbucks a des obligations de résultats. Il y en avait un ouvert sur Masson, pas loin de chez moi, là. Il a pas toffé longtemps. Tu sais, on a ouvert un café, on a vu que c'était pas la file le matin, on a vu qu'en après-midi, il y avait plein de flâneurs, on n'avait pas les rendements qu'on voulait, c'était peut-être rentable, mais c'était pas assez fort. On ferme le café. Donc Starbucks, c'est ça. Ça vit la pression de McDonald's, Tim Hortons et des cafés troisième vague, et maintenant, on veut dominer le monde pour aller chercher un marché qu'on n'a pas encore dans nos états financiers, qui génère quand même des milliards de ventes par année.
Merci, monsieur.
Salut.
Merci, bonne journée, 7h24.